Bonjour à toutes et à tous et merci Denis. Pour ma part, je vous emmène du côté de Pointe-Noire en République du Congo, appelée Congo-Brazzaville.
C'est un village de pêcheurs ici,
ouais.
Bon, qui n'a plus la même résonance qu'avant. Hein, parce qu'évidemment, la mer, l'érosion marine a tout cassé, bousillé. Donc ce qui fait que les gens, tu vois, ils ont des grosses pierres pour pouvoir jeter sur la plage pour pouvoir arrêter l'érosion. Alors c'est sûr que tu reviens dans une année, voilà, ce serait par là, il n'y aurait plus rien.
Ouais, ça avance de plusieurs mètres chaque année.
Chaque année, voilà.
Alors là, Claverre, c'est quoi? C'est comme un chantier naval ou un cimetière de bateaux, là?
C'était le projet que les gens louent. Et puis,
ah ouais, faire des balades touristes, voilà, d'accord. Ouais, ouais.
Et bon, il n'a pas réussi.
Ah oui, le relais touristique devant lequel je viens de passer avec mon ami et citoyen congolais Claverre, il est fermé et en partie effondré sur la plage. L'érosion côtière est à la besogne. C'est la double peine pour ce village de pêcheurs de Matombi, dans la baie de Laongo, à quelques kilomètres au nord-ouest de Pointe-Noire. Un village qui périclite, d'une part, du fait de la pêche industrielle, pratiquée par une entreprise chinoise qui ratisse toute la ressource en poisson, la ressource halieutique, en utilisant du filet à mailles très petites. Et, comme on vient de le voir, l'océan qui engloutit des centaines de mètres de littoral en emportant les maisons du village et en détruisant les infrastructures touristiques emportées par la houle, Matombi se meurt.
C'est bien.
Ici, il y avait un grand dépôt de poissons, il y avait un type de pêche, mais c'est passé dans l'eau.
C'est l'érosion qui a complètement détruit une partie, toute la partie côtière du village. Quoi.
Voilà, qui pénalise la classe sociale pauvre. Enfin, on peut passer, c'est des villages de pêcheurs, les gens qui font de la pêche artisanale, qui gagnent leur vie. Et maintenant, ils ne peuvent plus. Avant, c'était des bateaux accostés. Là, tu vois le bâtiment là, c'était un grand dépôt. De stockage de poissons et tout, voilà, donc ça c'est là où tu es, c'est ce qui est dommage.
Et toi ici tu connais bien ce village quoi, tu venais souvent?
Oui bien sûr, je sais Matombi, moi j'ai vécu à Luango et puis Diosso de l'autre côté là-bas, la pointe indienne, tout ça c'est des zones qu'on connaît. De l'autre côté là-bas, bon, on n'a pas eu le temps d'aller là-bas, c'est des cimetières qui sont emportés carrément dans les eaux. Et les pêcheurs, le plus souvent, ils ramènent des crânes humains dans leurs filets. Et les populations, les maisons, ici là on est, je crois, j'ai envie de dire, à 200 mètres, à 300 mètres, il y avait des habitations, mais ça avançait.
Des centaines de mètres ont disparu.
Ah oui. Et ce qui est bizarre, c'est que si on parle de cimetières, c'est que tu as les cimetières qui sont partis, mais ce n'est pas les cimetières de tout le monde qui partent dans l'eau. Les gens d'une certaine classe sociale, ils déterrent, ils ont le temps de déterrer, d'aller enterrer ailleurs, mais ce sont les autres. Et on est liés, nous, avec le cimetière, l'esprit du mort, l'esprit du parent. Donc on perd, il y en a des gens qui ont perdu la mémoire, l'histoire de leurs parents parce qu'ils n'ont pas pu déterrer pour exhumer et puis aller le mettre ailleurs. Donc ça, on est dans cette situation-là, personne ne sait. Quand est-ce que ça pourra être arrêté ou comment, on ne sait pas. Tu ne sais pas, c'est plus sécurisant, c'est pas sécurisant quand même.
Après,
de l'autre côté, tu peux trouver quand même, peut-être qu'il faut demander à tonton Afbat Koukong, la coin de légende.
Après les pierres, voilà.
Le
bloc de pierre là,
jusque
là-bas, on peut se laver. Mais là, c'est pas prudent parce qu'il y a beaucoup de pierres.
De se baigner là, ouais. Oui. Et c'est des pierres des maisons, c'est ça?
Oui, ces pierres-là, c'est les fondations de cette case-là.
Jusqu'où elle allait la côte avant?
La côte, en 72, quand je suis venu pour la première fois en 72, maman avait un restaurant, enfin la troisième pirogue.
Troisième pirogue?
Oui.
C'est presque à 150 mètres?
Oui, oui. Elle avait un restaurant.
Donc, maman, elle avait un restaurant là-bas?
Oui. Qu'on appelait la Ferry.
Et il a disparu quand ce restaurant? Il a été englouti quand?
Englouti, il y a plus de 20 ans.
Il y a plus de 20 ans.
Oui, plus de 20 ans. Plus de 20 ans.
Et c'est à cause de quoi, d'après vous?
Il y a deux phénomènes. Il y a d'abord l'avancée de la mer et puis l'érosion des eaux de pluie. Comme nous sommes en bas, les eaux qui quittent Diosso tombent dans les gorges et ça vient par ici. Vous voyez, par exemple, là, c'est pas la mer. Hein. Le trou, c'est
ça
pas
creuse,
la mer.
Là, ouais.
Ça creuse, là, oui. Quand les eaux de pluie viennent avec ta force, là, ça creuse. Ça, c'est pas la mer. Donc, C'est ça. Donc il y a deux phénomènes. Il y a l'avancée et puis les eaux de pluie. Dans les gorges, on respectait le bois et tout. Mais quand les gens se sont mis à couper le bois, à faire du charbon, tout ça là, ça a causé beaucoup de phénomènes aussi. Bon, maintenant là qu'ils ont arrêté, j'espère que...
Mais sinon, ah là, oui, ça a déréglé un peu l'écosystème qui existait ici. L'écosystème. Quoi. Et il y a du poisson toujours par ici pour les pêcheurs ?
Il faut aller maintenant loin. Ah parce oui. qu'avec le phénomène... c'est la société chinoise, la Taobao. Donc quand leur bateau quitte le quai, ils jettent les filets, donc les petites mailles, donc ça racle tout. Donc les pêcheurs maintenant, ceux qui font la pêche artisanale, vont un peu plus loin. Plus loin, plus loin. Il faut aller très loin pour avoir du poisson maintenant.
Ah ouais.
C'est difficile. Ouais. Parfois on peut se taper un mois, il n'y a pas de poisson.
Ah ouais.
Oui, il n'y a pas de poisson. Pas de poisson, c'est difficile.
C'est comment votre prénom ?
Christian.
Christian.
Oui.
Eh bien merci, bon courage. Ouais, bon courage à vous. Quoi. Il faut défendre hein, ce village, quoi, votre village. Quoi.
Vraiment.
Ouais. Merci bien.
Olivier Sigaud, donc prof en sociologie et de l'environnement au ministère de l'Agriculture, en retraite de son ministère, mais toujours actif, réalisant des documentaires et des créations autour de ces questions.
Comment tu réagis, toi, à ce que tu as entendu là dans cet extrait de documentaire ?
Ben, ça me serre le cœur parce que je vois très bien ces populations fragiles qui voient leur cadre de vie changer. Alors, ça m'interpelle beaucoup parce qu'il y a un discours d'humilité par rapport à ce qui est observé et qui comprennent pas forcément et qui se demandent quelle action ils vont pouvoir avoir. Il y a la même chose en Corse, au Portugal, il y a plein d'endroits où les gens ont des petites installations et voyant l'eau monter, un certain nombre d'activités touristiques sont obligées de reculer ou de régresser. Alors, c'est un bien aussi parce que je pense qu'il y a une forme de tourisme et d'activité qui a pas forcément sa place et pas forcément pérenne. Alors la question qu'on peut se poser, c'est ça, qu'est-ce qu'on fait de cette économie touristique ? Voilà, c'est des questions, c'est pas à nous de les régler, mais c'est aussi à nous d'y réfléchir, parce que le tourisme, c'est quand même une invention occidentale, là aussi. Hein. Et on en a fait, on a créé des dépendances, mais la Corse, c'était ça aussi. Hein. Le système insulaire, c'est souvent l'île de Ré, c'était des îles qui étaient en autarcie, à partir du moment où on a voulu faire une activité de tourisme, avec le pont, par exemple, à l'île de Ré, on a construit un peu partout, et aujourd'hui se posent des questions extrêmement importantes en matière d'érosion. C'est-à-dire que le problème, c'est est-ce que tu vas faire le mur de l'Atlantique ou le mur partout pour protéger, sachant que quand l'eau, elle passe, elle repart plus, hein, quand t'as fait un mur. Hein.
Olivier, on peut pas lutter donc contre l'océan, mais par contre, on peut lutter peut-être contre le dérèglement climatique, ça éviterait des catastrophes futures.
Pour moi, le changement climatique, c'est un produit du capitalocène, c'est ce que Judson Moore, un Anglais, avait travaillé, d'une forme de civilisation qui est celle du capitalocène. Moi, je parle jamais d'anthropocène, j'ai horreur de ce mot, c'est pas l'homme qui va créer un âge géologique. Par contre, il y a un système économique qui a commencé au XVIIIe siècle hein, et qui a transformé le mode de vie. Et mon gros travail en termes de recherche aujourd'hui, c'est aussi de comment éduquer au capitalocène.
Là, on est descendu hein, sur la plage. Et il y a quand même quelques barques hein, de jeunes pêcheurs. Et un peu plus loin, il y a le ponton des Chinois qui pêchent au chalut, au chalutier, voilà. Et qui ratissent tout. Quoi.
Voilà, qui ratissent tout, qui pêchent parfois à la dynamite.
Bonjour. Comment ça va ?
Ça va bien.
Ça va bien ? Vous êtes pêcheur ? France Inter, ouais. Ouais. Comment ça va ici alors, la vie au village ?
Bon, nous aussi on fait la pêche. Bon, on faisait la pêche. Dans le temps, il y avait beaucoup de poissons. Mais là, maintenant, il n'y a plus encore de poissons parce qu'il y a des Chinois ici. Ils nous emmerdent ici, donc chaque fois, les poissons n'est pas encore comme avant. Ouais. Donc, on est en train de souffrir. Par nous, les pêcheurs, quoi. On ne gagne plus rien.
Les Chinois, là, ils pêchent jusqu'au fretin, jusqu'aux réserves. Ouais, donc là, tel que nous parlons là. Ici, dans notre ciel, là, on n'a plus de réserves. Ouais. Dès qu'on
si
parle, là,
pas...
si Dieu nous donne, c'est bien. Si Dieu ne nous donne pas, c'est pas bien. Parce qu'on n'a plus confiance à l'océan comme avant. Ouais. Tel que là, on a grandi par ça.
Ouais.
Nos parents nous ont mis au monde à cause de ça.
Ils nous ont élevés
à cause de ça, à cause de la pêche. Vous comprenez ? Mais aujourd'hui, là, nous, leurs fils et leurs petits-fils, et nos enfants que nous mettons là, nous souffrons. Il y a un Français qui m'avait dit, on va souffrir plus que le Sénégal. Parce que le Sénégal, il paraît, ils avaient souffert pendant 12 ans. Nous, on souffrait plus que ça, oui. Parce que les Chinois, depuis qu'ils sont là, Il n'y a même pas 7 ans.
Il n'y a que toujours des Chinois, chaque fois. Regarde, ils sont en train de pêcher. Il y a ils ont des petits filets, des filets qui ont des petits mailles là. Donc ils ramassent tous les poissons. Donc quand ils viennent, après ils choisissent, ils prennent les grands poissons, les petits poissons là, ils jettent ça. Alors que les petits poissons là, c'est notre réserve dans notre pays. Quand les petits poissons là viennent dans le bord comme cela, ça va se gronder, ça sort dans la large. Après, la prochaine fois quand on fait la pêche, on a toujours des poissons. Mais là, on n'a plus de poissons.
Il peut arriver, je prends mon filet, je mets dans l'eau, afin qu'il puisse attraper les poissons, pour me permettre de mettre. Mais parfois, en passant, quand je pêche ça, il coupe le filet.
Le gros bateau,
regarde d'abord
quand
le gros bateau.
La petite pirogue là, il y a des gens qui sont là-bas.
Et qu'est-ce qu'ils ont fait en plein milieu comme ça. Donc, dès que le bateau arrive en plein écume, là où il y a les vagues là, qu'est-ce que chacun pour soi. Ces gens-là, pour se faire sauver, parce qu'ils avaient les bidons d'eau qu'on emmène. Ce sont les bidons d'eau qui les avaient sauvés. S'il n'y avait pas de bidons, qu'est-ce qui devait nous arriver aujourd'hui?
Philippe Curie, directeur de recherche à l'IRD. Avant, à l'IRD, on travaillait dans le golfe de Guinée. Moi, j'ai longtemps travaillé dans le golfe de Guinée, mais jusque dans les années 90, c'est tout. Hein, donc, il n'y avait pas les Chinois à l'époque, c'est vrai. Les Chinois sont venus. Alors moi, ce que je sais, c'est pour les côtes ouest africaines, sur pêche artisanale au Sénégal, et les Chinois qui ont construit avec les Russes 41 usines dans moins de 10 ans de farine de poisson. Parce que le marché du poisson de pélagique, alors le pélagique, c'est les sardinelles, hein, c'est ce qui nourrit la population sénégalaise en protéines pas chères. Avant, il y avait 20% de sardinelles, maintenant il y en a 80%, parce que avant il y avait 80% de poissons blancs, c'est-à-dire des beaux poissons de nobles qui ont été surexploités. Maintenant, il ne reste plus que la sardinelle, 80%. Et ça, c'était transformé par les femmes qui séchaient ça sur le sable. C'est donc une transformation complètement artisanale. Et c'était la protéine pas chère pour envoyer au Mali, pour envoyer un peu dans tous les états, là. Et alors, maintenant, on voit plus ces zones de séchage de poissons. Hein. C'est une vraie catastrophe. Et maintenant, les Chinois, ils recherchent partout dans le monde la protéine pas chère pour nourrir leurs poissons d'aquaculture. Et c'est quoi? C'est les sardines, les anchois, les maquereaux, les sardinelles qui sont transformées en farine. Mais sauf que, voilà, c'est 300 000 tonnes, les Sénégalais, ils en ont besoin pour se nourrir. Hein. Et alors ça a provoqué une pauvreté parce que, par exemple, les gamins, avant, ils mangeaient le midi dans les quartiers pauvres, ils mangeaient un sandwich avec la yaboy déshydratée, enfin au soleil, comme ça, la protéine pas chère. Et maintenant, ils mangent des sandwichs à la nouille. Hein. Ils sont remontés, hein, ils sont remontés contre les Chinois. Hein. Puis les Chinois, c'est vrai que c'est pas clair, c'est combine pas clair, quoi. Tout l'accès aux ressources, là, c'est 3 millions de tonnes. 3 millions de tonnes, c'est quand même énorme, hein. De non déclaré, hein, c'est non déclaré, c'est pêché. Alors il y a ça, plus les usines de farine de poisson qui sont construites à tour de bras, quoi. Parce que il y a des accords qu'on appelle des accords privés et qui sont absolument. Nous, on avait un étudiant qui a essayé d'essayer de trouver un peu qu'est-ce qu'il contenait, c'était impossible. Et ça, c'est la Chine qui fait des accords privés avec je sais pas qui, avec les ministres ou tout ça. Enfin bon, c'est de la grosse cavalerie. Un lien précieux, c'est celui de Daniel Poli. Daniel Poli, il a beaucoup travaillé sur la Chine et l'Afrique. Il a montré que ces accords privés, ça représente le pillage en Afrique. Il a quantifié ça, Poli, à plus de 3 millions de tonnes. Hein. Donc c'est énorme. Et puis les Chinois, c'est vrai que c'est pas clair, c'est combine pas clair, quoi. 3 millions de tonnes, 3 millions de tonnes, c'est quand même énorme. Hein. Et il a travaillé sur la pauvreté aussi en Afrique. Donc là, il peut aussi vous envoyer le papier qu'il a fait sur finalement la pauvreté en Afrique, montrant que les pêcheurs artisans, c'était parmi les plus pauvres des plus pauvres. Quoi.
Allô ?
Bonjour Daniel Poli.
Je dois dire que c'est pas un problème, c'est un énorme problème. Et vous avez ce que vous voyez au Congo, dans cette baie, c'est une représentation de ce qui se passe au niveau mondial. Et donc, on a tendance à dire que les problèmes viennent de la Chine, mais en fait, ils ne font que continuer une tradition néocolonialiste d'une pratique presque traditionnelle de pêche. Donc, pêcher avec des chaluts et des filets avec des petites mailles. Maintenant, ce sont les Chinois, et les Chinois, ils ont des fois plus de bateaux. Voilà. Alors, on a tendance à dire c'est la Chine. La Chine, c'est, ils font les choses autrement. Ils ne font pas autrement. C'est simplement qu'ils en font plus. Ils font les mêmes bêtises que les Européens, en plus grand.
Effectivement, l'excellent Daniel Poli, biologiste franco-canadien, grand spécialiste des ressources marines, a travaillé sur la question. Vous retrouverez toutes les références de ses travaux sur le site de l'émission « C'est bientôt demain » sur franceinter.fr. Merci à Olivier Sigaud, auteur du film documentaire « Submersion » au pluriel, à Philippe Curie, chercheur à l'IRD, Institut de recherche pour le développement, à Clavert et tous les amis de l'espace culturel Yarro de Pointe-Noire où j'ai eu le plaisir d'animer un atelier radio. Longue vie à Yarro Radio. On se retrouve la semaine prochaine à l'antenne ou en podcast. 1, 2, 3,
c'est parti. Bonjour et bienvenue à la radio Yarro.
Bonjour.
Bonjour.
Comment est-ce qu'on vous appelle ?
Le Baï.
Le Baï qui ?
Jawa.
Le Baï Jawa. Vous êtes en quelle classe ?
CM2.
Nous sommes à la 17e édition du festival Nsangunjinji.
Nous vous invitons à venir suivre les showcases tout en respectant les mesures barrières.
Ça se passe à Luanzili, à l'espace culturel Yarro, du 9 au 12 décembre.
Et qu'est-ce qui vous emmène ici à Luanzili ?
Soyez les bienvenus !